parce qu'on n'a rien dormi les deux. Je ne sais pas si c'est la lune. On se pose beaucoup de questions quand on ne dort pas. On était excités de venir ici. On se réjouissait tellement de venir là. On se dit, c'est peut-être ça. Mais il y a le radiateur ici chez vous, parce que ça chauffe. C'est vrai que la dernière fois que je suis venu là, il faisait pas très chaud. Alors je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'habiller. Mais je me rends compte qu'il fait très chaud, alors c'est peut-être la présence du Seigneur ce matin, mais on a bien chaud en tout cas. Alors, on va parler sur l'Église ce matin. Comment vivre l'Église aujourd'hui ? C'est un grand thème, c'est vrai que vendredi passé, j'ai vu les anciens, on a un peu discuté sur l'Église, mais c'est tellement un thème bateau, il y aurait tellement de choses à dire, je vais essayer d'être succinct par rapport à ce que je vais dire ce matin. J'avais prévu de la musique ce matin, mais malheureusement, il n'y a pas de Wi-Fi ici. Donc c'est dommage, la prochaine fois, je ferai autrement pour amener de la musique ici. J'avais prévu deux, trois choses. Mais ce n'est pas grave. Alors l'Église aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'il y en a qui viennent à l'Église comme ils vont au supermarché. Dire, ben voilà, je vais ce matin à l'église parce que j'ai besoin de 3 bananes, 2 kiwis, 1 kilo de bœuf. Pour ma semaine, je vais aller me servir à l'église parce que j'ai des besoins. Il y en a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils se sentent tellement mal qu'ils se disent, peut-être il y a une réponse à tous mes problèmes. Alors je viens à l'église parce que je vais trouver une solution. Il y a une baguette magique, le pasteur il a une baguette magique qui cache bien dans sa poche, et quand les gens viennent à l'église, il leur tape sur la tête puis il leur dit, va en paix, tout est réglé. Ça serait bien, hein, vous aimeriez bien avoir une église comme ça. Il y a quelqu'un ce matin? Oui. Ah voilà, on va essayer de se réveiller, c'est un peu dur le matin, hein. Après il y aura un bon café, mais il faudrait le prendre avant, ça serait mieux. On va peut-être lire ensemble dans Éphésiens 1, 22-23. Il a mis sous ses pieds, il l'a donné comme chef suprême à l'Église. C'est bien ce que j'ai lu. On va vérifier. Il a mis sous ses pieds et l'a donné comme chef suprême à l'Église. Et aussi le 23, pardon. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Une autorité qui nous dépasse. Il a mis tout sous ses pieds. Aujourd'hui, on dit, ouais, mais quand il y a une autorité, on dit, celui-là, il a le bras long. Vous avez déjà entendu cette expression. Il a le bras long. Mais dans ce contexte-là, on peut dire, Dieu a le pied très long. Il est très lourd. Ça veut dire qu'il a tout mis, il a une autorité tellement grande sur toute chose. Et quand il a cette autorité, on ne comprend pas toujours, parce que nous, on veut contrôler notre petit monde. Mais lui, il est au contrôle de tout. Parce que quand il met son pied, vous imaginez Dieu danser sur la terre. Qu'est-ce que ça doit être ? Vous n'êtes jamais posé la question, mais Dieu, il a du combien ? Du 38, du 39, du 42, du 2020, au niveau du pied. Je crois qu'on ne se rend pas compte de qui est vraiment Dieu, la grandeur de Dieu, la suprématie de Dieu dans l'Église. Dieu est un chef, Jésus est un chef. Donc c'est sûr que dans une société, on a tous besoin d'un chef qui nous dit ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, quand vous commencez un travail, il y a toujours un chef qui vous dit « ben, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça ». Alors, soit on l'écoute, puis on se dit « ah, mais ça fonctionne », ou soit on fait comme on pense. Et puis on se dit « mais peut-être j'aurais dû l'écouter parce qu'il m'a donné des bons conseils ». Le gros problème, c'est qu'on pense toujours qu'on est plus intelligent que les autres et qu'on en sait toujours plus que les autres. Ça, c'est biblique. Non, c'est pas biblique. Parce que la Bible nous enseigne qu'on doit toujours voir l'autre supérieur à soi-même. Et on a beaucoup de difficultés parce qu'on se voit toujours supérieur aux autres. Moi, j'ai fait des études, moi, j'ai fait l'école biblique. Je pourrais vous en raconter. J'en sais toujours plus que les autres. Donc c'est difficile d'intégrer un chef. C'est vrai que nous, quand on est dans l'Église, on a des fois de la peine avec l'autorité. Parce que cette autorité, elle nous dérange. Cette autorité nous dit ce qu'on doit faire. Mais des fois, cette autorité, elle est souvent comme une protection par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Il est la suprématie de l'Église. Vous êtes d'accord qu'un corps sans esprit, comment est-ce qu'il peut être rempli ? Et si je n'ai pas l'esprit, comment est-ce que je peux remplir les autres ? Comment je peux être un vase communicant, des vases communicantes ? Comment est-ce que je peux donner quelque chose que je n'ai pas reçu ? L'Église, on a reçu quelque chose pour communiquer quelque chose. Si je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu, si je ne suis pas rempli tous les dimanches quand je viens à l'Église, comment est-ce que pendant la semaine, je vais aller communiquer quelque chose ? Un corps sans esprit, c'est un mort vivant. Il y en a beaucoup autour de nous. Ils ont tout le reste, mais ils n'ont pas d'esprit. On voit, ils ont peut-être des richesses, ils ont peut-être une belle voiture, ils ont peut-être une belle maison. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien ça. Mais sans l'esprit, c'est vide. Souvent, dans notre travail, dans tout ce qu'on fait, dans les voisins qu'on connaît, des gens qu'on connaît, on se dit, mais on dirait un mort vivant. Vous avez jamais entendu cette expression ? Il a l'air vraiment triste. Notre rôle en tant qu'Église, c'est de communiquer cette vie qui nous est donnée. Tout en pensant que le vrai chef, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'on devrait souvent se poser la question, mais quand je vais à l'Église, des fois, j'en demande beaucoup. J'aimerais que les gens viennent vers moi et ils me posent plein de questions. Ils me disent, mais comment t'as été ta semaine ? Ça va ta vie ? Ton travail ? On aimerait que les gens nous posent 36 000 questions. Mais c'est normal ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on va à l'Église, on est comme un numéro, on s'asseye, on écoute la prédication et on repart après le dimanche à la maison. L'Église, mes amis, ce n'est pas un club. L'Église, c'est une famille où il se passe des choses. S'il ne se passe rien, franchement, je dis toujours, allez faire un golf le dimanche, c'est plus intéressant. Au moins, vous avez la nature et les oiseaux. Il y a quelqu'un qui nous parle. Des fois, les oiseaux peuvent nous parler. À l'Église, des fois, on n'entend pas grand-chose. La loi de l'amour, c'est communiquer, s'intéresser à l'autre. C'est lui poser des questions complètement basiques, mais s'intéresser. Si je m'intéresse à toi, mon frère qui a le plus jaune, je vais te poser des questions. J'en prends un au hasard, comme ça, excuse-moi, hein. Je suis très familier ce matin, mais je te connais pas, donc je vais te poser des questions. Tu viens d'où ? Oui, Neuchâtel. Ah bah c'est super ça. C'est une jolie ville. Hein. Tu as quel âge ? 51, c'est bien. Tu es marié ? D'accord, ça peut arriver. Hein. On n'est jamais à l'abri. Mais en tout cas, ton prénom ? Marco, enchanté. Moi c'est Emmanuel. On aura l'occasion de se serrer la main après. Mais c'est vrai, s'intéresser, parce qu'on voit les gens, on ne sait même pas d'où ils viennent, quel est leur prénom, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, poser des questions, parce que la prochaine fois, quand on les rencontre, on a quelque chose à communiquer, parce qu'on a de quoi communiquer. On sait son âge, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. On va s'intéresser à lui. Ce n'est pas un numéro, Marco. C'est une personne qui a de la valeur devant nous et devant Dieu. C'est par l'amour qu'on a les uns les autres que le monde verra que Christ est en nous. Quel exemple ! Mais ça demande un effort, hein ! Ça demande un effort d'aller vers l'autre et puis de se dire, je vais laisser mon petit ego de côté et je vais me concentrer sur l'autre, m'intéresser à lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est vrai que des fois, c'est frustrant parce qu'il n'y a jamais personne qui vous pose la question. Mais toi, comment tu vas ? On dirait qu'on va toujours bien. Mais ce n'est pas possible. On n'est pas des surhommes. Hein ? Peut-être les pasteurs, c'est des surhommes, mais pas du tout. C'est des fois les gens les plus faibles qui ont besoin d'être écoutés, encouragés aussi. Si vous croyez que je suis un surhomme, vous vous trompez, demandez à ma femme, elle vous dira. L'Église, c'est une histoire d'amour. Vous savez, moi j'ai une famille, j'ai deux magnifiques enfants, ma fille de 12 ans, mon fils de 14, il y a aussi ma maman qui est là au milieu, elle fait partie de la famille aussi, et mon épouse. C'est vrai qu'avoir une famille aujourd'hui, c'est pas toujours évident, hein ? Vous êtes d'accord ? Il y a des tensions, il y a des choses difficiles à se dire, on nous voit vraiment comme on est quand on sort de la salle de bain. On tire une de ses têtes, on a des cernes, on n'est pas maquillé. C'est toi ma femme ? J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Ça peut arriver des fois. On est terrible. La famille, c'est quelque chose de vrai. Mais c'est difficile. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le 60% des gens, ils divorcent. Parce qu'ils supportent pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne se comprend pas, parce qu'on n'a pas compris le rôle qu'on a à jouer dans la famille. C'est un peu comme ça dans l'Église. Des fois, on se dit, mais je vais à l'Église parce que c'est bien d'aller à l'Église. Parce que j'ai connu Jésus-Christ, il a changé ma vie, je vais à l'Église. Mais qu'est-ce que je vais faire à l'Église ? Quel est ton rôle ce matin ? Parce que tu es là, tu es en train de chauffer une chaise. Peut-être, elle brûle cette chaise, alléluia. On a prié ce matin, on a dit que le Saint-Esprit vient ce matin. Vous y croyez ? Si vous y croyez, ça veut dire que vous avez un rôle à jouer dans cette Église. Et puis qu'on ne reste pas des chrétiens inactifs, mais des chrétiens actifs. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On va lire Éphésiens 5, 22 à 31. Les femmes aiment très bien ce passage. Je rigole. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Si je m'arrête là, je pense que je risque d'avoir des problèmes en sortant de l'église. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même, de l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par les eaux de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Ah là, on a vraiment de la difficulté, nous les hommes. La femme, elle doit se soumettre, mais d'où ? Nous, on doit l'aimer. Ah, c'est un peu plus dur là. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est un long passage, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de résumer. Comme j'ai dit tout à l'heure, et je le dirai pendant toute ma prédication, l'Église, c'est une famille. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur prend l'exemple du couple par rapport à l'Église, et puis par rapport à nous. Pour comprendre, il y a des similitudes, des choses qu'on doit comprendre, comment ça fonctionne. C'est vrai que dans une église, on doit parler, on doit communiquer, on doit écouter. S'il n'y a pas ce genre de choses qui se produit, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'église. On ne sait pas qui c'est qui fait quoi, qui c'est qui est responsable, quelles sont les activités dans l'église et qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que généralement, ce qu'on fait, on se plaint et on dit « Ouais, mais ça devrait être comme ça. » Mais qu'est-ce que toi, tu fais ? Est-ce que toi, tu t'impliques dans quelque chose dans l'Église? Est-ce que tu es d'accord de dire, ben, je vais peut-être mettre, je sais pas, à l'époque, on avait mis quelque chose dans l'Église qui était le coup de pouce pour les gens qui avaient des problèmes financiers. Mais on leur donnait pas de l'argent, on leur donnait des vivtuables, donc de la nourriture, des choses pour se nourrir parce qu'ils avaient besoin. Ça, c'est quelque chose de concret. Je vous donne des idées, hein, il y en aurait beaucoup d'idées. Et c'est vrai que dans une famille, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme papa et Marie avertis, avec ma femme, quand on s'est mariés, on a commencé à lire un livre qui est terrible, qui s'intitule « Famille, comment en réchapper ?» On vous dit, voilà, on va créer une famille, mais comment est-ce qu'on va faire pour partir de cette famille, parce que ça va être l'horreur. C'est pas un bon message, ça, hein. Mais c'est vrai que ça peut devenir très difficile. Et c'est vrai que dans l'Église, des fois, on va à l'Église, mais on se dit, mais purée, dans cette Église, je vis rien, c'est difficile. Est-ce que je vais vraiment rester parce que ben, le pasteur, il est pas sympa, il crie, ou parce que, je sais pas, il a pas une tête qui me revient. J'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Mais est-ce qu'on est d'accord de supporter l'autre? Est-ce qu'on est d'accord de l'aimer comme il est, avec ses différences? On a de la peine. Cette analogie avec la famille, c'est la même chose. Parce que si on aime, on supporte. Et si on ne supporte pas, on peut se poser la question si on aime vraiment. Ou on peut se poser la question dans l'Église, mais est-ce que j'aime mes frères et sœurs, ou est-ce que je vais juste au club de l'espoir du dimanche pour voir les gens qui y sont, puis dire, ben, c'était sympa ce dimanche, allez, bon dimanche, on ne sait pas comment il s'appelle, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, on ne s'est même pas intéressé à lui, on ne lui a même pas posé des questions si cette semaine ça a été au travail, ça s'est bien passé, ou tu as eu assez à manger peut-être, ben oui, peut-être il y a des gens qui n'ont pas assez. 3 sur 10 personnes en Suisse sont pauvres, hein, juste comme ça. Des fois, on ne se rend pas compte. Parce qu'il a mis une belle cravate, il avait l'air riche, puis en fin de compte, ben, c'est son seul costard qu'il avait, et puis tout le reste, il n'y avait plus rien. Mais si on ne lui pose pas de questions, on ne peut pas savoir ce qu'il vit. Il faut poser des questions. Et dans la famille, c'est la même chose. On pose des questions, mes enfants, quand ils rentrent de l'école, et ma femme, je vais lui poser des questions. Ça a été ta journée, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu des bonnes notes? Ouais, j'ai fait 5,5, 6. Ah ben, on est content quand on entend ça. Mais quand on commence à nous dire, j'ai eu 3, 3,5, ah, on va serrer la vis. C'est un peu ça. Dans une église, on peut vivre beaucoup de contradictions. C'est comme dans un couple. C'est difficile des fois. Est-ce qu'on est prêt à supporter? Est-ce qu'on est prêt à aimer? Est-ce qu'on est prêt à encourager? Parce que je crois que la contradiction, c'est formateur. Et quand c'est formateur, soit on se remet en question, ou soit on s'en fiche, on laisse les choses. Et c'est quand on se remet en question que l'Église commence à grandir, parce que l'Église, c'est nous. Quand moi, je grandis, je fais grandir l'autre. On peut aussi se poser la question, mais à quel corps j'appartiens? Au mien ou au corps sanctifié que Christ me donne au travers de son esprit pour que tous les jours il me sanctifie, il me purifie, il me lave des péchés, il me lave de ce que je suis et il me transforme. Un jour, un pasteur disait, être chrétien, c'est mourir. C'est pas une bonne nouvelle, hein? Franchement, tu dis, ouais, tu veux devenir chrétien, tu dois mourir à toi-même. Ben, ce message-là, on l'entend très peu. On entend plutôt, oui, viens Jésus, tu auras tout, toute la bénédiction, tout ira comme sur les roulettes. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Si on a compris qu'on doit mourir à soi-même, ça veut dire toute ma vieille nature qui fait tout le contraire de ce que Dieu me demande, dire, Seigneur, moi, je laisse tomber ça. Et je vais vers toi parce que tu vas me donner une nouvelle nature qui, au travers du Saint-Esprit, va me permettre de dire non. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est comme j'ai déjà dit une fois, on ne peut pas changer un cheval de course. Non, on ne peut pas changer, pardon, un âne en un cheval de course. Un âne reste un âne. L'analogie, l'âne, c'est ma vieille chair qui veut faire les choses contre ce que Dieu me demande. Mais si vous devez changer, prenez un cheval de course. Le cheval de course, c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes dessus, je vous garantis, si vous faites ce que lui vous demande, vous allez courir dans la direction de Dieu. Par contre, si vous restez avec votre âne, vous n'allez jamais le transformer, vous n'allez jamais le changer. Un âne reste un âne. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas compris ça. On pense qu'on va changer notre âne. Mais non, l'âne, il va rester. Tu dois changer de camp, tu dois changer d'animal, si je peux utiliser cette expression. Quel rôle j'ai dans l'Église ? C'est vrai que si je vois mon frère dans l'Église qui est actif, qui s'engage, qui parle de Jésus-Christ là où il se trouve, et qui a un témoignage dans son quartier, mais je vais faire la même chose. Vous savez, dans une famille, la théorie, elle ne change pas les gens. Si je faisais des théories à mes enfants, je vous garantis que mes enfants me diraient « Papa, t'es un peu lourd ». Vous savez, comme ils disent les jeunes, « T'es un peu lourd ». Mais non, ils vont regarder le papa et ils vont dire « Mais je vais faire comme lui ». C'est le mimétisme. Je m'identifie à ce que tu fais et ce que tu es, mais pas ce que tu dis. Ah, et ça, c'est un secret dans l'Église. Parce que si vous faites des choses et les gens voient que vous êtes un exemple, l'Église va suivre. Et si vous n'êtes pas un exemple, elle ne va pas suivre. Je vous garantis, moi, quand je me suis converti, avant, j'étais dans l'Église catholique, c'était fantastique. J'allais deux fois par année à l'Église. Et la dernière fois que je suis allé, j'ai vu le prêtre, c'était un mariage, je m'en rappelle toujours. C'était un mariage fantastique, il prêchait le prêtre, c'était super. Deux jours après, je le vois au bar du coin, complètement ivre. J'ai dit, je ne comprends pas. Pourtant, j'y connaissais rien du tout. J'ai dit, comment ça se fait que le dimanche, il prêche, super et tout. Deux jours après, il est au bar, complètement ivre. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Quel exemple il était pour ses brebis ? On peut se poser la question. Donc, est-ce qu'on prêche quelque chose de vrai ou on fait semblant d'être chrétien ? Vous savez la différence entre un disciple et un chrétien ? Parce que des chrétiens, il y en a partout. Les disciples, il n'y en a pas beaucoup. Un disciple, c'est celui qui écoute la voix du Saint-Esprit et qui obéit à ce que Dieu lui demande. Un chrétien, il reste avec ses acquis. Il est devenu un jour chrétien et je reste dans ma zone de confort, dans ma zone qui me plaît parce que je sais beaucoup de choses, ça fait 20 ans que je suis chrétien, mais je n'ai pas compris qu'il faut être disciple. Jésus, il est venu chercher ses disciples, il est venu chercher son Église, qu'il est en train de transformer, qu'il est en train de rendre toujours plus belle. Mais dans la fin des temps, qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur ? Est-ce que je trouverai encore la foi sur cette terre ? Ça doit nous remettre en question. Est-ce que je trouverai encore la foi sur cette terre ? Ça veut dire que c'est les disciples qui sont d'accord de marcher par la foi, parce qu'ils écoutent la voix du Saint-Esprit et ils mettent en pratique ce que Saint-Esprit dit. Donc c'est une remise en question de devenir disciple. C'est vrai que dans une église, des fois, on recherche notre propre intérêt. Mais comment on peut faire grandir une église si on recherche son propre intérêt ? Comment on peut baser une église sur son propre intérêt ? Ça ne fonctionnera jamais. C'est comme dans la vie, comme dans les entreprises. Si on n'a pas compris qu'on a besoin de partager, de vivre une unité dans l'Église, comment est-ce qu'on va faire pour grandir ? Je crois qu'on doit rechercher l'amour du prochain et construire quelque chose avec lui. Parce que si dans cette mission, on est d'accord de mettre Dieu dans nos projets, les choses vont grandir et vont être soutenues par Dieu pour qu'elles grandissent. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire du prêchi-prêcha. Il faut vivre la pratique de l'Évangile. Dans Jacques 1, 22 à 25, je vous lis ça. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais en mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Une église qui met en pratique l'Évangile. C'est la pratique de la foi qui va porter du fruit dans le royaume de Dieu. L'oubli de la pratique nous conduit à plus savoir qui on est. Ça veut dire à plus savoir qui je suis. C'est grave. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes d'identité dans l'Église. Parce qu'on ne met pas en pratique. Dieu nous parle. Et si Dieu nous parle, mettons en pratique. Si nous voulons que l'Église grandisse, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande. Et quand on obéit, ça veut dire qu'on construit un pont entre nous et la société, et on construit un pont avec qui je suis. C'est très profond. Si je veux être quelqu'un, je dois mettre en pratique. Ça, c'est toute la mentalité hébraïque. Elle recevait un enseignement et elle mettait en pratique tout de suite. Cette mentalité grecque, où c'est toute la connaissance, plus j'en sais, et mieux je me porte. Ça veut dire que je vais rester un chrétien qui est dans une montgolfière, qui va s'envoler. Il va tellement s'envoler qu'on ne va voir que ses pieds et on ne va pas voir qui il est vraiment. La fidélité est un ingrédient qui joue un rôle primordial dans le service. Dans 2 Timothée 2, 13 à 15, Dieu est fidèle malgré nos infidélités. Il ne change pas. La fidélité de Dieu doit nous motiver à être fidèles comme lui. C'est vrai que des fois, dans l'Église, il y a des difficultés, les gens se disputent, ne sont pas toujours d'accord. Ça peut arriver. Mais Dieu nous demande de construire des relations, de valoriser l'autre, de regarder ce que Dieu a mis chez l'autre et faire ressortir toutes les belles choses que Dieu a données à l'autre. Mais nous, ce qu'on fait des fois, on est plutôt à critiquer et à démolir ce que l'autre il a fait. Mais comment on peut construire quelque chose comme ça? C'est comme dans la famille. Je dois relever le positif, il y aura toujours du négatif. Mais ce négatif, je vais le changer en positif. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Mais quel fruit je veux manger ce matin ? Vous êtes d'accord si depuis votre naissance on vous a dit « Mais de toute façon, tu ne seras jamais capable. Tu ne vaux rien du tout. Franchement, tu n'aurais dû jamais être là au monde. » C'est des paroles, mais destructrices. Et je pense que parmi nous, certains ont vécu ça. On n'a jamais construit quelque chose de positif. On n'a jamais dit des paroles valorisantes. Donc comment est-ce qu'on peut construire quelque chose si on met la mort à la place de mettre la vie? Et en tant qu'Église, on doit construire, on doit valoriser les gens. On est tellement dans un monde où il y a tellement de problèmes d'identité qu'on devrait être un exemple. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ? Il valorisait toujours les gens. La prostituée, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Il ne l'a pas jugé, mais il l'a valorisé, il l'a aimé, il l'a écouté. Ça, c'est des valeurs. On a perdu, il me semble, des fois, des valeurs tout à fait normales dans l'Église. On n'est pas des extraterrestres. Vous trouvez que j'ai une tête d'extraterrestre ? J'aurais dû me peindre en vert ce matin, peut-être. Quelle parole je vais donner ce matin à l'Église ? Quelle parole je vais donner dans mon travail ? Quelle parole je vais donner aux voisins ? Une parole de vie ou une parole de mort ? Ce que tu dis, ça crée quelque chose. Si tu crées quelque chose dans cette église, tu dis, Seigneur, toi tu vas faire croître cette église. Seigneur, tu vas manifester ta grâce dans cette église. Tu vas mobiliser des gens consacrés, des gens qui t'aiment, des gens qui veulent être un témoin à Neuchâtel pour qu'il y ait le réveil à Neuchâtel, pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'un Neuchâtel a besoin d'être sauvé. Parce que Neuchâtel est perdu sans Jésus-Christ. Et je crois qu'on a une responsabilité en tant que chrétien d'être des témoins vivants là où on est. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, ce n'est pas une critique que je fais, mais ça sera les musulmans et les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas compliqué. On a reçu gratuitement, donnons gratuitement. Donnons cette bénédiction. Disons des choses positives sur la vie des gens. Changeons notre manière de voir l'autre. Pas comme un ennemi, mais comme un frère et une sœur qu'on doit valoriser, qu'on doit aimer, qu'on doit mettre en avant. La gangrène dans l'Église, c'est de dire « je suis important, je suis indispensable, sans moi l'Église ne peut pas exister ». Je vous rappelle qu'on est des serviteurs inutiles. Dieu nous fait la grâce de nous utiliser, mais on est inutile, il n'a pas besoin de nous. Il est assez grand, Seigneur. Si tu crois qu'il a besoin de toi, tu te détrompes. Il veut nous utiliser parce qu'il nous aime. Et parce qu'on a de la valeur à ses yeux, il nous a créé à son image. Donc cette valeur-là, elle doit être dans l'Église. Il y a trois choses importantes. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Pourquoi ? Parce que si vous avez de l'amour, vous avez de l'espérance. Et si vous avez de l'amour, vous avez de la foi. C'est que ce que vous allez dire avec votre parole, ça va créer quelque chose chez l'autre. Mes amis, le réveil, ça va nous coûter. Si on veut que l'Église croit, ça va nous coûter. Il faudra se mettre à genoux, il faudra prendre des temps de jeûne et prière pour que le Seigneur se manifeste dans cette Église de l'espoir. Pas si c'est une Église de l'espoir, je vous rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit un espoir pour les gens qui ne connaissent pas Christ ? Je fais un peu long, hein ? Baptiser. Je ne vais pas prendre ton message, mon frère, mais ça veut dire mourir à soi-même, on l'a dit tout à l'heure. C'est toutes les choses qu'on laisse de notre passé et puis qu'on va mettre dans l'eau, là. Comme je disais, Calvin disait... Voilà, j'ai mis mon vieil homme dans l'eau, je suis mort à moi-même, mais ce petit coquin, bah, il sait nager. Il sait nager, donc je vais faire comment ? Alors soit je lui donne un gros coup sur la tête pour qu'il reste au fond de l'eau et qu'il se taise, mais c'est difficile. Donc ça prouve, comme tu disais ma sœur, que oui, le baptême c'est bien, mais après c'est un combat spirituel pour renoncer à sa chair, puis apprendre à marcher avec l'esprit, c'est tout un apprentissage. Luc 10:10 dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui est perdu. » Mais qui c'est le perdu ? C'est mon voisin ? C'est mon collègue de travail ? c'est les gens qui connaissent pas Jésus-Christ, qui ont aucune idée, qui sont à 10 000 kilomètres de la foi. Alors, est-ce que vous avez déjà mobilisé l'Église pour vous dire, mais on veut être un exemple dans ce quartier, ici? Les gens voient qu'il y a une Église. Mais l'Église, qu'est-ce que ça veut dire en grec? Être appelé hors d'eux en grec. Alors nous, ce qu'on fait, on fait venir les gens à l'Église. On veut les attirer dans l'Église. Donc on fait tout le contraire de ce que la Bible nous enseigne. On doit aller vers les gens. Ce n'est pas eux qui vont venir vers nous. Nous, ce qu'on veut, c'est nourrir notre ego. Que les gens, tous les dimanches, nous demandent, mais viens, alors, viens me poser des questions. Viens, viens, intéresse-toi à moi. Parce que je suis important. Parce que si tu ne poses pas de questions, je vais mourir. Mais non, allons vers les autres. Faisons une démarche inverse. Et on s'intéresse aux autres. L'Église est appelée hors d'eux. C'est ça que ça signifie, ecclésia en grec, appelé hors d'eux. Je dois aller vers les autres. Je dois mouiller mon maillot, comme on disait, moi je fais partie d'une équipe de foot, je mouille mon maillot, je vais vers les autres. Ça va me coûter peut-être en temps, en argent, en disponibilité, en prière. Je vais changer mon agenda, ma manière de penser. On a beaucoup de difficultés à changer des mauvaises habitudes. Vous êtes d'accord, tous? Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion en disant, mais oui, Seigneur, je veux changer ma manière de vivre. J'ai toujours vécu comme ça. Est-ce que je suis prêt à me remettre en question? Est-ce que je suis prêt à entendre ta voix qui me dit, mais peut-être là, tu devrais changer. Là, il y a ça qui devrait changer. Pour que tu sois différent. Que les gens disent, mais il n'est pas comme les autres, celui-là. Il a une drôle de tête, mais je l'aime bien. Non, c'est pas ce que les gens ils disent, des fois. Mais on doit donner envie. Mais quand on est amoureux, c'est la même chose, on donne envie. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a vu, elle n'a pas dit, mais c'est quoi ce ton? Il fait peur, il a une drôle de tête. Elle s'est dit, mais il est beau, il est magnifique. Et quand j'ai vu ma femme, c'est la même chose. J'ai trouvé belle. Je me suis dit, mais j'ai envie d'être avec elle. J'ai envie de passer du temps avec elle. Je suis amoureux. Même après 18 ans, je suis encore amoureux. Heureusement, s'il y en a après 20 ans, ils y sont lassés et puis ils se disent, ouais, je te supporte. Ben, c'est pas terrible, hein. Ça veut dire que l'amour, il a besoin d'être renouvelé. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Après 25 ans, 30 ans qu'on connaît le Seigneur, on a besoin d'être renouvelé pour l'aimer toujours plus. Et c'est ça l'amour dans le couple. Et dans l'Église, c'est la même chose. Ouais, mais ça fait 20 ans que je vais à cette Église, c'est toujours la même chose. T'as fait quelque chose pour que ça change? Non, j'ai rien fait. Je m'assieds tous les dimanches puis je regarde. Je dis, mais c'est pas ça l'Église. Tu fais comme ça dans ta famille? Ouais, j'ai divorcé 4 fois. Ah ouais, d'accord. C'est pas un jugement que je fais sur les divorcés, c'est bien clair. Mais pour dire, vous comprenez l'analogie, hein. Pour dire, il y a quelque chose que je dois changer. Une remise en question. L'Église, c'est une histoire d'amour. Je l'ai déjà dit, tout va bien. On doit aller vers les perdus, on doit s'engager avec les gens qui ne connaissent pas le Christ. Mais c'est vrai que si le réveil ne vient pas dans l'Église, ou la croissance ne vient pas, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que moi, je n'ai pas grandi. Je suis resté comme il y a 20 ans. Je ne sais pas si des fois, vous faites un check-up au début d'année, puis vous dites... l'année 2014, voilà comment j'ai vécu. L'année 2015, je veux vivre d'une autre manière. Il y a des choses qui ont besoin de changer dans ma vie. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit. Parce que souvent, on réfléchit pour beaucoup de choses dans le cadre peut-être professionnel, mais par rapport à sa propre vie, on ne réfléchit pas. C'est grave. Et cela bloque la croissance. Ce qui bloque la croissance, c'est qu'on se contente de ce qu'on a, nos acquis. Depuis 20 ans, c'est comme ça que ça dure. Depuis 20 ans, je suis toujours le même. J'ai toujours ma petite musique, j'ai toujours mon petit psaume à la fin du culte. Ça peut changer. On peut évoluer, mais ça dépend de ce qu'on veut. Et quand on se contente de son état, c'est une léthargie qui fige ma foi. Donc je ne peux pas grandir. Cette foi-là, elle ne va pas grandir. Parce que la foi, c'est un muscle, qu'il faut y travailler. C'est une action, la foi. Sans la foi, il n'y a rien qui se passe. On tourne en rond. Parce que des fois, peut-être, on est un peu paresseux. Hein, la paresse, c'est terrible, ça. On s'endort sur son passé. Comme disait l'autre, règle ton passé pour mieux vivre ton présent et ton futur. Et si tu ne le règles pas, tu t'endors. Tu es toujours là, sur la même chaise depuis 20 ans. Tu as peut-être toujours la deuxième rangée à gauche. On sait exactement où tu es. C'est pas ça, l'Église. Vous devriez peut-être changer vos habitudes quand vous venez au culte le dimanche. À la place de vous asseoir toujours au même endroit, allez vous asseoir une fois à la place du pasteur. Puis le pasteur, on le met à la fin. C'est pas grave, de toute façon, il est habitué. Il y a des gens qui sont convaincus de péché, ils ont été convaincus il y a 20 ans. Ils ont demandé pardon il y a 20 ans. Puis on dirait qu'ils ne demandent jamais plus pardon. C'est fou, ça. Hein? Puis il me semble qu'ils sont restés dans un pardon qui date il y a 20 ans. Et il me semble qu'ils n'ont pas été renouvelés, parce qu'on pêche encore, mais renouvelés dans le pardon que Dieu nous donne par sa grâce. On dirait qu'ils ne sont pas renouvelés, qu'ils sont restés dans le passé. Et ça empêche de croître. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la croissance? Elle fixe des objectifs. Et on peut se poser la question, quel est mon objectif que j'aimerais pour cette année 2015, pour que ça change, pour que Dieu puisse vraiment bâtir l'Église? C'est une affaire des membres. Les membres sont un instrument que Dieu veut utiliser dans l'Église et entre ses mains. La croissance nous amène dans une direction. Je sais où l'Église va. Je connais les projets de l'Église. Oh, salut. Ça va? Tu veux te poser sur mon doigt? La croissance me pousse en avant. Elle me pousse en avant, ça veut dire qu'elle me fait croître. Parce que je suis motivé de croître. Une église qui se regarde ne peut pas grandir. Une église doit se décentrer d'elle-même pour se tourner vers les autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est sortir, être appelé hors de. Ça veut dire que je me décentre de ma petite église, de mon petit train-train, pour aller vers l'autre. Et on va finir avec Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est la loi et les prophètes. On aimerait beaucoup que les autres fassent beaucoup de choses pour nous. Mais qu'est-ce que nous, on fait pour les autres? À bon entendeur, salut, comme disait l'autre. Donc on doit se rappeler qu'on doit être disponible pour les autres. Et ce qu'on a envie que tous les autres fassent pour nous, faisons-le nous d'abord. Et n'attendons pas les autres. Que le Seigneur bénisse cette Église qui continue à faire son œuvre, et je crois qu'il a commencé quelque chose, et il faut tenir bon, continuer sur cette voie-là. Merci.